Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Lorsque nous écoutons les nouvelles à la radio, nous lisons les journaux, nous regardons la télévision, nous constatons que peu de choses vont encore bien dans ce monde. Que de guerre, bruit de guerre, famine, épidémie, tremblements de terre, inondations et agressions sans fin. La drogue se vend aux portes des écoles et même à l'intérieur de celles-ci. Le sida est devenu un véritable fléau qui prend de plus en plus d'ampleur. Au lieu de prendre leurs responsabilités, certains préfèrent accuser Dieu. Ils mettent en doute son existence puisqu'il n'intervient pas. D'autres voudraient qu'il se présente devant les Nations Unies pour imposer une paix mondiale. Ne se soucierait-il plus de sa création ? Se détournerait-il de l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance? Pourquoi ne se manifeste-t-il pas? Faut-il, comme certains théologiens le font, trouver des excuses à l'indifférence apparente de Dieu? Croyez-vous que si Dieu se manifestait, il serait accepté à bras ouverts? Déjà parmi ceux qui se disent chrétiens, beaucoup ne veulent pas croire au récit de la Genèse. Ils considèrent qu'il n'est que légende, narration poétique, image ou conte à dormir debout. En un mot, rien de bien sérieux. Mais si c'était le cas, pourquoi croire au reste de la Bible, à l'avenue du Sauveur, à sa résurrection et à notre salut? La parole de Dieu a toujours été mise en doute. Là, Adam et Ève eurent de nombreux enfants, mais ils rejetèrent leur Créateur, son autorité, et les lois qu'il leur avait données pour leur bien. Caïn, leur fils aîné, fut un menteur et un meurtrier. Et l'humanité, dont le taux de naissance croissait, devint de plus en plus violente. Vous pouvez lire dans les Écritures que Noé est seulement le 8e juste, comme le confirme l'apôtre Pierre. Abel, lui, fut le 1er juste. C'est ce que Paul écrit dans Hébreux 11. Oui, juste, depuis le premier homme jusqu'à Noé, et cela au cours d'une période de 1500 ans environ. C'est le reflet d'une décadence morale certaine et la preuve que ce qui est a déjà été dans le passé. Que se passa-t-il à l'époque du déluge? Nous découvrons dans la Bible que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. À cette époque, les hommes suivaient la voie de la désobéissance qu'avait choisie Adam. Ils rejetaient Dieu ainsi que ses lois qui avaient été données pour le bien de l'humanité. La corruption et la violence régnaient partout, provoquant leur cortège de misère. Aussi, pour mettre fin à tous les malheurs dont cette humanité pécheresse était la seule responsable, Dieu décida de provoquer un déluge pour éliminer cette corruption et cette violence. Vous connaissez sans doute cette histoire. Noé échappa au déluge, ainsi que sa femme, ses 3 fils et leurs épouses. Japhet, un des fils de Noé, de qui descend la race jaune, et Cush, son frère, de qui descend la race noire, inventèrent leur religion et leur philosophie dont le vrai Dieu était exclu. Le 3e fils de Noé, Sem, de qui descend la race blanche, eut Abraham parmi sa descendance. À part Noé, la Bible ne révèle pas si un autre homme marcha avec Dieu jusqu'au moment où celui-ci appela Abraham. La soumission d'Abraham fut totale, et son obéissance à Dieu exemplaire. La Bible révèle qu'il observa les lois et les commandements. Il en récolta de nombreuses bénédictions matérielles et spirituelles. Plus loin dans le récit biblique, nous retrouvons la descendance d'Abraham en Égypte. elle était esclave de Pharaon. Se souvenant de son alliance avec Abraham, Dieu fut ému du sort de ce peuple et rempli de compassion. Il fit sortir son peuple du pays d'Égypte pour l'amener dans la terre promise. Dieu accomplit de grands miracles. La mer Rouge s'ouvrit et le peuple la traversa à sec. On pourrait penser qu'après avoir vécu tous ces prodiges, après avoir entendu l'Éternel lui parler du haut du mont Sinaï et rappeler sa grande loi éternelle, ces gens auraient eu à cœur de se soumettre à leur Dieu qui les avait délivrés du joug égyptien. Mais peu de temps après que Dieu demanda à Moïse de monter en haut du Sinaï, que tous ces gens demandèrent à Aaron de leur fabriquer une idole, ce fut le fameux veau d'or. Pour les punir de cet outrage et de leur murmure, Dieu les laissa errer dans le désert pendant 40 années, jusqu'au moment où cette génération périt. Dans le livre des Juges, nous découvrons un peuple implorant Dieu de le délivrer du joug de ses ennemis. Mais à peine étaient-ils exaucés qu'ils oubliaient le Dieu vivant dans la plus parfaite inconscience. À l'époque de Samuel, alors que l'Éternel était leur roi, le peuple voulut un roi comme les autres nations et rejeta Dieu. Voyons ce que Dieu dit à Samuel. Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Après la mort de David et de Salomon, le royaume d'Israël se scinda. Il y eut le royaume du Nord, dont la capitale était Samarie. 19 rois se succédèrent pendant 200 ans environ. Ils rejetèrent l'Éternel pour se tourner vers de faux dieux, entraînant le peuple dans leur idolâtrie. Vaincus par la Syrie, celle-ci les emmena en déportation. Au sud, le royaume de Juda, composé de ceux que l'on appelle depuis lors les Juifs, garda sa capitale à Jérusalem. Ce royaume comprenait les tribus de Juda et de Benjamin, rejoint plus tard par la tribu de Lévi. 20 rois se succédèrent sur le trône de Juda. 8 restèrent fidèles à l'Éternel, mais les 12 autres s'en éloignèrent et entraînèrent le peuple vers les faux dieux. Ce royaume dura environ 300 ans et fut détruit par Babylone. Le peuple fut déporté, bien qu'un petit nombre revint plus tard sous Esdras et Néhémie. Vint ensuite l'époque du Christ. Lorsqu'à l'âge de 30 ans, Jésus débuta son ministère, il chassa les démons. Il rendit la vue aux aveugles. Il rendit l'ouïe aux sourds, la parole aux muets et l'usage de leurs membres aux paralytiques. Fut-il accueilli à bras ouverts pour autant? Loin de là. On l'accusa de blasphème. On prétendit qu'il était un imposteur. On le jalousa. On essaya de le lapider à plusieurs reprises. Vous savez que lorsque le peuple eut le choix entre la libération de Jésus ou Barabbas, il demanda la libération de Barabbas et la crucifixion de Jésus. Et malgré son enseignement, malgré les foules qui furent témoins de ses miracles, il n'y eut que 120 disciples dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Lorsqu'il reviendra pour établir son royaume sur terre, pensez-vous que les gens l'acclameront et l'accueilleront avec joie? Le livre de l'Apocalypse déclare qu'à ce moment-là, les hommes blasphémeront le Dieu du ciel. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Les choses sont-elles différentes aujourd'hui? Que découvrons-nous dans le monde qui nous entoure? Ne voyez-vous pas qu'en cette fin du XXe siècle, on blasphème contre le Dieu du ciel en falsifiant ses propos, en lui faisant dire ce qu'il n'a jamais dit, en niant ou rejetant ce qu'il a affirmé dans sa parole. Les fêtes que l'Éternel a données à perpétuité sont rejetées et remplacées par des fêtes qui ne sont pas mentionnées dans la Bible. Le repos qu'il a fixé au septième jour est éliminé et remplacé par un jour qui était observé par les païens. Pour prouver qu'il était bien le Messie, Jésus a certifié qu'il resterait dans le tombeau pendant 3 jours et 3 nuits. Que fait-on de ces 72 heures qui sont primordiales pour prouver qu'il était bien le Messie annoncé? On en escamote une partie pour faire des compromis avec des cultes d'origine païenne. Mais qui a raison? Est-ce Dieu ou sont-ce les hommes qui traitent les Écritures avec désinvolture? Je pourrais ajouter beaucoup d'autres exemples pour vous faire comprendre qu'il existe de nombreuses similitudes entre l'ancien Israël qui a toujours rejeté Dieu et notre monde actuel. Adam et Ève ont transgressé les commandements. Ils ont convoité ce qui ne leur appartenait pas et ils ont volé. En préférant les conseils de Satan, ils lui ont accordé plus d'importance qu'à Dieu. Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Le déluge détruisit l'humanité. Elle fut détruite parce qu'elle ne se souciait pas des lois divines. Ensuite, ce fut au tour du peuple d'Israël. Il n'obéit point à l'Éternel malgré les grands miracles dont il fut témoin. Israël et Juda, quant à eux, rejetèrent Dieu et ses lois. Ils furent emmenés en déportation. Le Christ fut rejeté par les gens de son époque, et lorsqu'il reviendra en tant que roi des rois, les hommes iront à sa rencontre pour le combattre. Aujourd'hui, qu'y a-t-il de changé? Rien. Et s'il y a dans le monde tant d'églises chrétiennes différentes, c'est parce que les enseignements bibliques sont rejetés. En affirmant que la loi est abolie, certaines églises poussent leurs membres à pécher. L'apôtre Jean a écrit, plus de 60 ans après la mort du Christ, « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Avouez qu'il est facile de comprendre que si l'on pêche, c'est tout simplement parce qu'on transgresse la loi. Alors, la loi peut-elle être abolie? Non, puisque le Christ affirme qu'elle ne l'est pas et qu'il n'en disparaîtra rien. C'est pour ça que Paul dit « Sans la loi, le péché est mort ». Si le péché est mort, il n'y a plus de pécheur, et s'il n'y a plus de pécheur, l'homme n'a plus besoin d'un sauveur. Il peut dès lors se passer du sacrifice du Christ. Réfléchissez bien à cela, et vous comprendrez que c'est une évidence qui s'impose avec force. L'observance des lois divines entraîne des bénédictions et des malédictions. Lisez d'ailleurs cela dans Deutéronome 28. Nous ne devons pas nous étonner devant le triste cortège de guerre, de famine, d'épidémie, de crimes, de corruption dans notre monde moderne. La situation est désolante, mais non pas désespérée. Je vous expliquerai pourquoi la semaine prochaine.